les messages de cette fin de semaine, la vie chrétienne, un choix quotidien, un choix qui se renouvelle plusieurs fois par jour. Et hier matin, dans notre premier entretien, qui était en même temps un moment où nous faisions connaissance, nous avons vu qu'il n'existait qu'une vie chrétienne et que la vie chrétienne véritable n'était autre que celle de Jésus. Et nous vous avons posé cette question, cette vie chrétienne, cette vie de Jésus, l'avez-vous reçue? À cette question, moi je peux répondre pour moi-même, mais je ne peux pas répondre pour vous. Je peux vous répondre que par la grâce de Dieu, il y aura 51 ans, cette année, il y a eu 50 ans l'année dernière, que j'ai reçu cette vie dans mon cœur par la foi. On ne se souvient pas toujours du jour où cela s'est passé. Moi, par la grâce de Dieu, je m'en souviens, c'était un samedi matin. Et je me souviens même de l'heure où, comme le dit un cantique, je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçus mon Sauveur. Mais ce que je savais à partir de 11h du matin, ce samedi du 31 juillet, je savais que j'avais la vie. Mais je sais, qu'en toi j'ai la vie. Le Seigneur m'avait sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, je pouvais attendre l'heure de son retour. Et par la grâce de Dieu, il y a plus de 50 ans que je l'attends. Et je sais que si je dois vivre encore, eh bien peut-être que je serai de ceux qui n'auront pas besoin de passer par la mort pour aller auprès de lui. C'est une bienheureuse espérance. Et je voudrais que vous puissiez aussi partager cette espérance et échapper à cette terreur qui vient de plus en plus sur le monde. Nous n'allons pas au devant de la colère. La colère vient sur le monde, nous le savons. Nous sommes dans des jours comme ceux de Noé, comme ceux de Sodome et de Gomorre. Le déluge, la catastrophe vient sur une terre et qui vit en rébellion ouverte contre Dieu. Mais le croyant n'attend pas la colère, il attend Jésus qui le délivre. Alors, je vous le demande, est-ce que cette vie chrétienne, est-ce que vous la possédez? C'est très simple, ça veut dire, avez-vous reçu Jésus dans votre cœur comme votre sauveur personnel? Est-ce que Jésus est une personne dont vous savez l'histoire, dont vous connaissez les miracles, mais qui reste extérieur à votre vie, ou bien est-ce que Jésus est entré dans votre cœur? Vous chantez souvent que Jésus est entré dans mon cœur, mais est-ce que c'est vrai pour vous aujourd'hui, 20 février? Est-ce que Jésus est hors de vous ou est-ce que Jésus est en vous? La vie chrétienne véritable, c'est celle de Jésus. Mais nous disions aussi hier soir, la vie de Jésus, c'était la vie de qui? Vous vous souvenez? C'était la vie du Père. La vie de son propre Père. De sorte que, si vous avez reçu la vie de Jésus, quelle vie avez-vous? La vie du Père. Et c'est pourquoi vous pouvez être appelé réellement enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un enfant de Dieu? Qui est-ce qui peut dire cela? Qu'il est un enfant de Dieu? C'est celui qui a reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, dit l'Écriture, il leur a été donné le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si nous sommes maintenant les enfants de Dieu, que sommes-nous les uns pour les autres? Des frères, pas des cousins, hein? Des vrais frères, des frères et des sœurs. Et nous devons nous témoigner cet amour fraternel. Cet amour qui découle de cette relation que nous avons avec le Père. J'ai la vie du Père, et mon Père a d'autres enfants, et les autres enfants de mon Père, ce sont mes frères et mes sœurs. C'est cela un lien qui est réellement merveilleux. Et voyez-vous, je vous ai cité en passant l'histoire d'Israël où il était dit à ce peuple qui allait entrer dans le pays de Canaan, à ce peuple qui était déjà délivré. Comprenez-vous bien? Le peuple d'Israël, où était-il perdu d'abord? Dans quel pays habitait-il ce peuple comme esclave? En Égypte, n'est-ce pas? Et ce peuple a été délivré d'une façon merveilleuse du pays d'Égypte. Moïse l'a fait traverser la mer Rouge et puis l'a conduit jusqu'au bord, jusqu'à la frontière du pays de Canaan. C'était donc un peuple de sauver. C'était donc un peuple de délivrer. Et c'est à ce peuple de sauver, c'est à ce peuple de délivrer que Moïse dit que Dieu a mis devant lui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est à ce peuple de sauver qu'il dit, choisis la vie, n'est-ce pas? Choisis la vie afin que tu vives. Donc, vous êtes sauvés, mais pour vivre de ce salut, il faut que vous choisissiez cette vie qu'il vous a donné. Il faut que, comme dit Paul à Timothée, que vous saisissiez la vie éternelle. La vie éternelle, vous l'avez, mais est-ce que vous en vivez? Comprenez-vous? C'est cela le vrai salut. C'est pas de se dire, un jour, j'ai été délivré du pays d'Égypte, un jour, j'ai connu la libération du joug du Pharaon, mais il y a longtemps que ça, mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes encore un esclave? Ou bien, est-ce que vous êtes en pleine possession de ce salut? C'est donc à des délivrés qu'il est dit dans le chapitre 30, et là personne ne peut me contredire, du Deutéronome, j'ai mis devant toi le chemin. Mais maintenant que tu es sauvé, choisis quotidiennement la vie. Marche dans le chemin de la vie. Et quel est le chemin de la vie? Qui est le chemin? C'est Jésus. De sorte que quand il vous est dit, choisis la vie, eh bien, quotidiennement, pense à Jésus. Quotidiennement, marche avec Jésus. Marche en Jésus. Choisis la vie afin que tu vives. Saisissez la vie éternelle. Vous l'avez reçue, cette vie éternelle. À tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Celui qui a le Fils a le Père, mais il a aussi la vie. Il a la vie. Alors vivez de cette vie. Et maintenant, il y a un autre passage qui nous montre combien cela doit être renouvelé, ce choix, qu'on n'oublie pas cela, qu'on est dans un certain chemin où maintenant c'est à nous de choisir quotidiennement la vie. Israël est donc entré dans le pays de Canaan. Moïse est mort, mais le Dieu de Moïse n'est pas mort. Et il dit à Josué, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce que j'ai fait pour Moïse, je vais le faire pour toi. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, Josué a donc expérimenté que réellement le Dieu de Moïse était son Dieu. Et il a fait entrer le peuple, mais un jour, lui aussi, Josué, il va suivre le chemin de toute la terre. Et quel est le chemin de toute la terre? C'est celui qui conduit où? Oui, mais le chemin de toute la terre, il finit où? À la mort, au cimetière. Hein? Alors, un jour, Josué dit, moi, je vais le chemin de toute la terre. Il est devenu âgé et puis il sait qu'il n'y a pas d'espoir de demeurer ici-bas. Alors, il voudrait donner ses derniers conseils, ses dernières exhortations à ce peuple. Et donc, c'est un peuple sauvé. C'est un peuple qui est déjà entré dans le pays de Canaan. Mais c'est justement ce peuple qui est sauvé, qui est entré, qui a déjà joui de beaucoup de bénédictions, qu'il est demandé de nouveau de choisir. Vous voyez comme on ne peut pas s'endormir quand on a la vie de Dieu. Chapitre 24 de Josué. Je vous lis ceci. Vous pourrez le lire entièrement vous-même, puisque vous avez peut-être du temps. Josué dit au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Vous voyez que la vie chrétienne ou la vie divine, la vie avec Dieu, c'est toujours maintenant. C'est jamais dans le passé, c'est maintenant que ça se vit. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, verset 14. Maintenant, quand est-ce qu'on doit craindre l'Éternel? Demain? Maintenant. N'est-ce pas? Est-ce que c'est on devait craindre l'Éternel seulement au moment de notre conversion? Non. C'est toujours maintenant. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, est-ce qu'il y en a qui, depuis leur conversion, sont tannés du Seigneur? Moi, je connais qu'il y en a qui sont tannés. Et toute leur vie le prouve. Ils ne marchent pas droit. Ils n'écoutent pas sa parole. Alors, écoutez bien. Dieu ne vous force pas. Et si vous ne trouvez pas bon, en ce jour du 20 février 1982, de servir l'Éternel, bien, choisissez quand? Aujourd'hui. On est toujours dans l'aujourd'hui de Dieu avec la parole. Hein. C'est, ma vie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier. Ma vie, c'est aujourd'hui. Il y a eu un hier dans ma vie, puis maintenant je suis dans l'aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas, mais à chaque jour suffit sa peine. Hein. Je ne m'inquiète pas de demain, je m'en remets au Seigneur. C'est tellement beau la parole. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Vous dites, mais moi j'ai déjà choisi. Oui, mais aujourd'hui. Vous avez choisi aujourd'hui? Vous avez choisi, je ne sais pas, le jour de votre conversion, moi je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours vrai? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, donc les inconvertis, les païens, ceux d'au-delà du fleuve, le dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Parce qu'on habite au milieu d'un monde hein, qui sert les idoles. Vous êtes bien d'accord? Quand je dis ça, je ne parle pas des catholiques. Parce qu'il y en a qui pensent tout de suite que les idoles, c'est seulement dans les églises romaines, ça se trouve. Mais ceux qui servent les idoles, ils vont pas même à l'église. Et ce n'est pas des statues, là, seulement qui sont des idoles. C'est les idoles qu'on a dans notre cœur. C'est tout ce qu'on adore à côté de Dieu. Et quand on entend le langage du jour, qu'est-ce que les gens adorent? C'est effrayant. Je l'ai dit souvent, je le redis encore. Qu'adorez-vous? Oh, j'adore ceci, j'adore cela, j'adore ça. J'ai dit l'autre jour que une certaine personne qui parle à la radio disait qu'elle adorait les crêpes Suzette. Vous voyez ça? J'adore les crêpes Suzette. Je veux une crêpe Suzette. Elle a fait de son ventre ou de son estomac son Dieu. Alors elle se prosterne devant son petit ventre. Mais en même temps, elle se prosterne devant la crêpe Suzette. J'adore. Ah, c'est adoratrice. Mes amis, choisissez qui vous voulez servir. La crêpe Suzette? Ou bien le Seigneur? Mais moi, voilà, c'est ça qui dit. Vous devez avoir des convictions, mes amis. Vous entendez autour de vous des gens dire, oh, mais moi, je suis tanné, ça va pas, cette vie chrétienne, c'est trop difficile de marcher dans ce chemin. Jésus vous avait averti, il vous a jamais trompé. En tout cas, moi, je ne serai pas, et je demande au Seigneur qu'il me reprenne si je le devenais, je ne serai pas un prédicateur qui vous dit que le chemin est large, qui vous dit que ça sera facile. Je n'ai jamais dit cela aux gens. Qu'est-ce que Jésus disait? Parce que lui aussi, il montrait qu'il y avait deux chemins. Et il disait, venez à moi, je suis la porte. Mais il disait, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Mais il mène à la vie, mais il est honnête, le Seigneur. Et si vous êtes entré dans le chemin étroit, si vous êtes entré par la porte étroite, vous vous trouvez, que vous le vouliez ou non, dans un chemin resserré. Il n'y a pas à discuter. Ou bien vous êtes dans ce chemin et vous ne vous étonnez pas qu'il soit resserré. Et même, c'est tellement plus facile. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire dans un chemin resserré. Vous ne pouvez pas aller à droite, vous ne pouvez pas aller à gauche. Vous allez droit. C'est beaucoup plus simple de marcher dans le chemin resserré. Il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'une ligne dans le chemin resserré. Dans le chemin large, il y en a un qui fait ceci. Dans le chemin large, il y en a un autre qui fait cela. Chacun fait selon son cœur. Dès lors, vous les regardez et vous dites, mais puisqu'il le fait, moi je peux aussi le faire. Et ça, c'est la marche dans le chemin large. Dans le chemin resserré, il n'y a pas une marche pour les catholiques, une marche pour les protestants, une marche pour les évangéliques. Il y a la marche du Seigneur. Il y a l'épreuve de Jésus. Alors ne me dites pas que c'est si difficile de connaître la volonté de Dieu. Quand vous êtes centré sur Jésus, vous savez ce que vous avez à faire. Mais quand vous dites, oh, mais moi je demande à Dieu qu'il m'éclaire, il vous a déjà éclairé. La plupart du temps, quand vous demandez au Seigneur qu'il vous éclaire, vous savez déjà ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. Mais vous voudriez qu'il vous donne une permission. C'est pas ça? Soyons un peu honnêtes. Hein. Bien souvent, nous voudrions qu'il nous laisse faire un peu autrement, selon notre propre cœur. C'est pourquoi, mes amis, c'est un choix quotidien. Mais le Seigneur ne vous oblige pas. C'est de nouveau à des croyants, à des sauvés, à des gens qui ont déjà une expérience dans la vie chrétienne, que le Seigneur dit, par la bouche de Josué, maintenant, si ça vous fatigue de suivre le Seigneur, eh bien, suivez les autres dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est beau ça, hein? Il est convaincu. Et il est convaincu non seulement pour lui, mais qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut parler de sa maison. Il peut parler de sa maison. Et c'est alors ici que je rejoins le message que j'ai essayé de vous donner ce matin, et vous verrez que tout se lit. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ma maison? C'est parce que Josué a, et c'est dans son livre qu'il est écrit, dans le Deutéronome, dans le livre de Moïse, mais que Josué a voulu vivre, il était dit dans le chapitre 6 du Deutéronome. Tu aimeras, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. Donc il n'est pas question de servir d'autres dieux. Hein. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que je te donne, quand? Aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui, remarquez bien. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ta Bible. Dans ton cœur. C'est ton cœur qui devient ta Bible. Comprenez-vous? Et il faut intérioriser tout ce qui est mis là. Il faut que ça nous devienne intérieur. Ces commandements seront dans ton cœur. Mais pour qu'ils soient dans notre cœur, les commandements de la Bible, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait fait? Il faut les lire. Alors nous avons lu ce matin, bienheureux celui qui lit. Au lieu de dire, oh mais c'est trop difficile, même le livre d'Apocalypse. Non, il est dit, bienheureux celui qui lit. Et celui qui écoute, qui comprend. Qui est dit, mais qui l'écoute même, et puis qui garde, qui obéit à ces choses-là. C'est comme ça qu'on est bienheureux. Alors, Josué, lui, pouvait répondre pour ses enfants parce qu'il avait donné le goût de la parole à ses enfants. Ces commandements, verset 6 du chapitre 6 du Deutéronome, c'est tellement important ça, que je te donne aujourd'hui, vous voyez, c'est de nouveau répété, seront dans ton cœur, tu les inculteras à tes enfants. Moi et ma maison. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Heureusement qu'il n'y avait pas la télévision et le poste de radio. Hein. Parce que vous ne pouvez plus en parler. Vous écoutez toujours ce qui se dit dans le monde. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur tes poteaux de ta maison et sur tes portes. Et puis, vous voyez, quand on vit vraiment de la parole dans notre foyer, dans notre famille, il y a des questions que nos enfants nous posent. On n'a pas besoin de tanner nos enfants avec l'écriture. Quand les enfants voient que la parole a une autorité sur notre cœur, et que notre vie est vraiment une vie de chrétien, une vie qui recommande le Seigneur, verset 20, « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ses préceptes et ses lois et ses ordonnances. » Vous voyez comme c'est beau. C'est l'enfant qui demande, c'est l'enfant qui questionne sur la foi des parents, qui s'intéresse à ce que vivent les parents, à ce qu'ont vécu les parents. Que signifient ces choses? Alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Vous voyez, on a une histoire à raconter à nos enfants. Nous aussi on était perdus, nous aussi on était des esclaves, mais le Seigneur nous a délivrés. On a une réponse. Alors Josué a agi ainsi, et c'est pourquoi à la fin de sa vie, il voit des enfants qui marchent. Et il peut répondre pour ses enfants, moi et ma maison. Mais moi, je ne peux pas répondre pour vos maisons. Hein. J'ai à répondre pour ma maison. Mais le Seigneur sera suffisant. Alors, vous voyez, Moïse demande au peuple de choisir. Josué demande au peuple de choisir. Ils ont déjà choisi, semble-t-il. Mais il faut qu'ils renouvellent leur choix. Et qu'est-ce que le peuple répond? Verset 16, je reviens au chapitre 24 de Josué. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Est-ce qu'il y en a ici qui voudraient abandonner le Seigneur? Ou bien que vous avez ces mêmes sentiments? Loin de nous la pensée d'abandonner le Seigneur et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens, les habitants du pays, donc tous les ennemis. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Alors, verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Vous vous rendez compte? C'était des sauvés, hein? C'était des gens qui n'étaient plus des idolâtres. Mais qu'est-ce qu'il y avait de nouveau au milieu d'eux? Des dieux étrangers. Ils n'étaient pas restés fidèles dans leur cœur, au Seigneur, et ils n'adoraient peut-être plus des idoles extérieures, mais vous n'adorez peut-être plus des idoles, vous ne vous prosternez plus devant des statues, mais dans vos cœurs, est-ce qu'il y a des idoles? Ôtez les idoles, ôtez ce qui empêche le Seigneur de vous bénir. Qu'est-ce qui est une idole dans votre cœur? Qu'est-ce qui est une idole dans mon cœur? Tout ce qui n'est pas Jésus. Ça, je l'ai compris pour moi-même. Verset 24. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel et nous obéirons à sa voix. Et Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici sept pierres, moi je vous ai dit ces animaux, hein, béatifiés là, tous ces animaux qui sont là, sont témoins, je l'ai dit hier soir, hein, que vous dites, c'est le Seigneur que nous allons terrible. Voici, cette pierre servira de témoin contre vous, car elle a entendu, vous voyez qu'une pierre entend, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel vous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Un jour, quand vous serez devant le Seigneur vous dira, tu te souviens d'un jour, c'était le 20 février, les caméras du ciel étaient braquées sur vous. Et là, ce jour-là, il y avait un ours d'un côté de la salle. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait là? Une coyote. Puis là-bas, un renard. Et là-bas, un raton laveur. Et là, un castor. Il y avait toutes ces bêtes du Canada. Et devant ces bêtes, vous avez dit, nous voulons servir le Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Vous en souviendrez, hein? Vous vous souvenez de ce lieu, vous voyez comme il est. Et alors on se dit, mais maintenant qu'ils ont fait cette alliance, c'est définitif. Ben non, c'est pas définitif. De nouveau, le peuple sera convoqué. Ce peuple qui est entré dans le pays de Canaan, ce peuple qui a fait à nouveau la promesse de suivre le Seigneur, sous le roi Akab, il est convoqué par Élie. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie. Vous avez cela dans le chapitre 18 du livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 18. Je vous l'indique simplement en passant. Élie se trouve seul prophète de l'Éternel. Et puis, il est triste en voyant que le peuple de nouveau, le peuple qui descend de ceux qui ont été sauvés de l'Égypte, ce peuple ne suit pas la voie du Seigneur. Et même, il subit tellement l'influence d'Akab et de sa femme Jézabel, qui est une adoratrice de Baal, des faux dieux, que Élie pense que Dieu va rejeter ce peuple. Et alors il le convoque sur le mont Carmel, un lieu que je connais bien et que quelques-uns ici aussi connaissent. Et au chapitre 18, je lis ceci, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Qu'est-ce que c'est un homme qui cloche des deux côtés? Comment vous l'appelleriez-vous? Un clochard, hein? Alors, oui, mais pas seulement un clochard. Qu'est-ce que c'est clocher des deux côtés? Vous marchez comme ça, hein? Alors, jusqu'à quand est-ce que vous marchez comme ça? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Puis si c'est Baal, ben je vous prête encore mes jambes pour courir après lui. Courir après lui. Vous voyez que Dieu ne vous oblige pas, que Dieu ne vous contraint pas. Dans un lieu, choisissez qui vous voulez servir. Si vous ne voulez plus le servir, eh bien, dites-le. Et puis maintenant, ici, oh, nous voulons le servir, mais un petit peu, on veut quand même marcher un peu avec le monde. Non, le Seigneur ne veut pas cela. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel, eh bien, dites-le. Et puis, si c'est Baal, courez après lui. Qu'est-ce que le peuple répond? Verset 21. Il ne répondit rien. Vous voyez où on peut en arriver? Je vous pose de nouveau la question, amis qui croyez au Seigneur. Hein? Est-ce que c'est vraiment lui que vous voulez servir? Est-ce que vous voulez marcher d'une façon digne du Seigneur? Ou bien est-ce que vous voulez marcher en clochant? Un pied dans le monde, un pied dans le chemin du témoignage. Jusqu'à quand clocherez-vous? C'est de côté. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, courez après lui. Et il ne répond de rien. Et il faudra que, il y ait cette histoire que vous lirez vous-même, qui s'accomplisse, que le feu commence Élie leur se moquait d'eux. À midi, Élie se moqua d'eux. Verset 27. Elle dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec leurs épées et avec leurs lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire 3 heures, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et puis, quand Élie alors, lui, a dressé son étel et qu'il prie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avançait et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, vous voyez, il y a toujours le mot, aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui, à part Seidran, que c'est lui que vous voulez suivre. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voyez comme c'est beau. À qui appartenait leur cœur, au fond? Le cœur d'Israël, à qui est-ce qu'ils appartenaient? À Dieu. Mais leur cœur s'était éloigné. Alors il était question de ramener les cœurs. C'est pas que moi je vais vous dire vous n'étiez pas réellement converti, je ne suis pas tout ça. Hein. Mais je dis qu'une fois converti, on peut s'éloigner. On peut se refroidir. Notre cœur peut s'égarer. Et il faut ramener les cœurs. Et Dieu ne se contente pas de petits sauvés. Hein. Oh, moi, je suis sauvé. C'est vrai, j'ai ma conversion. Je peux vous raconter ma conversion. Je sais tout ça. Non, mais il dit, ton cœur, est-ce qu'il est prêt du Seigneur aujourd'hui? En ce 20 février, est-ce que ton cœur est prêt du Seigneur? Bien, s'il s'est éloigné. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui? Il veut ramener vos cœurs. Et veut ramener mon cœur pour que le Seigneur soit aimé d'un cœur ardent, d'un cœur neuf. Ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. Eh bien, voilà, ce que j'avais à cœur de vous montrer, c'est qu'une fois qu'on a accepté Jésus, on est toujours replacé quotidiennement devant ce choix. Demain, le Seigneur me dira, qui veux-tu servir? C'est quotidien, hein? Qui veux-tu servir? La vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. Parce que c'est chaque jour que nous sommes dans ce monde et qu'il y a toujours les deux chemins. Hein? Mais vous avez maintenant choisi d'être dans le chemin étroit. Alors le Seigneur vous le rappelle. Mais vous voyez ce qui se passe dans le chemin large, forcément. Alors, est-ce que vous voulez marcher comme on marche dans le chemin large? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous voulez retourner dans le monde comme Démas, qui a aimé le présent siècle et qui est retourné dans le monde? Vous connaissez maintenant la parole. Alors maintenant, devenons pratiques. Quels sont ces choix quotidiens? Vous êtes au Seigneur. Je ne sais pas où vous habitez. Je ne sais pas si vous avez prié quand vous avez demandé à Dieu de vous donner un lieu pour habiter. C'est très important. On est appelé à choisir le lieu de notre habitation. Où allez-vous habiter? Là où ça vous plaît le mieux? Sans considérer l'environnement? Si vous dites au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre. Maintenant, ma demeure, mon appartement, le logement que tu veux que j'aie, Je te demande qu'il soit un logement où mes enfants puissent être heureux et où je puisse les éduquer et les faire grandir pour toi. Là, je voudrais vous ramener à l'histoire de Lot, qui était aussi un croyant. Et un jour, Abraham lui a dit, « Nos biens sont trop grands, choisis, je te laisse choisir le lieu où tu voudras habiter. » Et il est dit que Lot a levé les yeux, et il a vu la belle plaine de Sodome, et il a choisi pour lui. Il leva ses yeux, et il choisit pour lui ce qui lui paraissait le meilleur. Et il s'est installé, lui et ses enfants, près de Sodome, sans s'inquiéter que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Les gens de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Mais la situation est tellement belle, il aura tellement d'avantages, aussi pour ses enfants, qu'il suit son propre cœur. Tandis qu'Abraham, lui, il accepte le lieu où Dieu le place. Ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voyez-vous, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Ce que vous désirez ou ce que Dieu veut? Qu'est-ce que vous pensez? Dans tous les domaines, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Ce que vous pensez, ce que vous envisagez ou ce que Dieu veut? C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Parce que si vous choisissez, bien apparemment vous choisissez la bonne part, mais vous aurez des déceptions. Le pauvre Lot, en choisissant pour lui cette ville de Sodome, il a des avantages matériels, mais bien vite. Quand on a des filles, qu'est-ce qu'il arrive à ces filles? Elles ne restent pas toujours toutes mignonnes, toutes petites. Elles deviennent grandes. Puis un jour, qu'est-ce qu'elles désirent? Se marier. Alors quand on les a mis tout près des gens de Sodome, avec les jeunes de Sodome, qu'est-ce qui va arriver? Un miracle? Non. Elles épouseront des gens de Sodome. Et ces gens de Sodome, quelle influence est-ce qu'ils auront sur ces filles? Une influence qui n'est pas celle du Seigneur. Alors, je vous le demande, quand il est question de déménager, faites-en un sujet de prière. Dites au Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et le Seigneur vous conduira. Et le Seigneur vous bénira. Mais pensez aussi à vos enfants. Puis maintenant, quand dans votre famille, il est question de choisir un métier aussi, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Comment est-ce qu'on peut savoir vraiment dans quelle situation nos enfants seront heureux? Et moi, je suis convaincu d'une chose, que nous devons revenir à la parole. Si cette parole est dans votre cœur, vous serez guidé au sujet de vos enfants et de la vocation qu'ils devront avoir. J'ai dans le livre de l'Exode un verset que je trouve formidable, au chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bétsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ashimaha, et de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Or, si le Seigneur nous laisse sur la terre, c'est pour faire quoi? Sa volonté, tout ce qu'il a ordonné. Alors vous pouvez croire que Dieu a mis aussi dans vos enfants un esprit de sagesse. Et c'est cela que vous devez chercher. Quelle est la disposition que mon enfant a? Qu'est-ce que je vois en mon enfant qui montre qu'il a une certaine habileté, certains désirs, un certain goût pour accomplir certaines choses. Et vous serez dirigé, vous serez conduit, de sorte que votre enfant ne sera pas quelqu'un d'incapable. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que notre capacité vient de Dieu et que la capacité de nos enfants vient aussi de Dieu. Et que bien souvent, nous perdons nos enfants. Nous avons un désir pour nos enfants. Disons, moi, je suis notaire. Mon fils, il sera notaire. Mais il n'a pas du tout le goût pour ça. Et alors, on fait le malheur de son fils par notre volonté. Au lieu de voir qu'est-ce que Dieu veut pour mon fils, c'est pas parce que moi, je suis notaire que nécessairement mon fils devra être notaire. Ou bien, moi, je suis médecin, je veux que mon fils soit médecin. Mais ça sera peut-être un boucher, s'il est médecin. Alors, vous n'allez pas le pousser à devenir un chirurgien alors qu'il n'a pas le talent pour cela. Nous recherchons la pensée de Dieu pour nos enfants. Et si vous priez pour que Dieu vous dirige et oriente votre enfant, je suis sûr que vous ferez là une constatation qui sera une bénédiction pour vous. Dans le choix d'un métier, par exemple. Maintenant, prenons encore un autre exemple. Quand vos enfants grandissent, ou même si vous avez grandi et que vous êtes déjà loin des parents, qu'est-ce qui arrive dans la vie? Quel est le choix qu'on fait? Est-ce qu'on restera célibataire? Une fois qu'on est à un certain âge, on a envie de se marier, de fonder un foyer. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'aurez épousé la fille qui me plaît, pourvu qu'elle me plaise. Et c'est ça que vous allez faire? Alors elle vous plaît un jour, elle vous plaît un mois, elle vous plaît une année, vous finissez par l'épouser, puis au bout de 2 ans, elle ne vous plaît plus. Ça ne correspond plus. Alors qu'est-ce que vous faites? Oh, je sais bien. Vous dites le divorce, c'est pas pour les chiens. Non, c'est pas pour les chiens. Alors c'est pour qui? C'est pour nous. Alors vous dites, puis ça va pas, je divorce. Puis vos enfants, si vous en avez. Oh, mais vous dites, mais les enfants, ils se débrouilleront. Il ne faut pas faire du chantage avec les enfants. On nous impressionne toujours par la question des enfants. Quelle est la pensée du Seigneur? Dites-moi un peu, est-ce que vous voulez divorcer? Il y en a par ici qui veulent divorcer? Moi, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait divorcer? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? C'est qu'il s'est déjà éloigné du Seigneur. Et puis, pourquoi tu veux divorcer? Parce que je n'aime plus ma femme. Alors, tu veux devenir un veuf, tout de suite, et sans la tuer. Je divorce, je ne fais pas de mal, je divorce. Qu'est-ce que je fais? Je reste seul? Non, j'ai déjà une autre idée. J'en vois une autre. Et c'est ça que je veux faire? Tu es déjà loin du Seigneur. Tu es déjà loin du Seigneur. Et tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas connaître une vie chrétienne heureuse. Mais disons même que vous n'êtes pas marié, mais que vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, belle, bien, un beau jeune homme, comme Joseph. Puis voilà une femme mariée qui vous tente. Vous savez, un jeune homme se dit, avec une femme mariée, ça risque rien. Parce que si même je la mettais enceinte, son mari portera la paternité quand même. Hein? On s'arrange. Les femmes mariées, c'est un bon conseil hein, pour un jeune homme. Il dit, bien voilà, elle a de l'expérience, et puis si jamais il arrive quelque chose, j'ai une assurance. C'est ça que le diable fait avec nous. Puis on ne sait plus pourquoi, moi, puisque je l'aime. Puis en fait, ce n'est pas moi qui l'ai cherchée, elle s'offre à moi. Et qu'est-ce qui arrive? Puis on se laisse aller petit à petit. Puis on tombe. Que fait Joseph, lui? Relisez son histoire. Son choix dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar le tente. Il dit, comment pécherai-je et ferai-je un si grand mal? Contre qui? Contre Dieu. C'est toujours contre Dieu le péché, mes amis. C'est pas contre un homme. C'est contre Dieu croyez-le bien, le péché, c'est contre Dieu. Comment pécherais-je avec une raison si grande contre Dieu? Et voyez-vous, c'est tellement vrai cela, que quand Abraham a mis dans une situation difficile le roi Abimélec au sujet de sa femme, il avait dit que Sarah, sa femme, c'était sa sœur, alors Abimélec, trouvant que la sœur d'Abraham était jolie, la prend pour être sa femme. Puis dans la nuit, qu'est-ce que Dieu fait? Il apparaît en songe à Abimélec et il lui dit, tu es un homme mort. Puis il dit, pourquoi? Parce qu'il a pris la femme d'un autre. Puis il dit, mais il m'a dit que c'était sa sœur. Et c'est dans la droiture de mon cœur, c'est dans la pureté de mon cœur que j'ai pensé qu'elle pouvait devenir ma femme. Puis qu'est-ce que Dieu lui dit? Chapitre 20 de la Genèse. Il lui dit, oui, j'ai vu la droiture de ton cœur. Et c'est pour cela que je t'ai empêché. Empêché quoi? De coucher avec elle. Moi, je trouve que c'est formidable. Un Dieu qui vous empêche de coucher. C'est pas assez fort? J'ai vu que dans ton cœur, c'est un homme droit. Même si tu avais très envie, hein, je t'ai empêché. Je t'ai empêché. Ne me dis pas que Dieu ne nous vient pas en aide, même quand on serait païen. Il a aidé un païen. Il dit, je t'ai pas permis de faire ça. Mais alors, rends la femme d'Abraham, rend cette femme, elle le fait. Voyez-vous, si vous faites entrer Dieu dans votre vie, vous verrez que vous serez appelé à certains choix. Joseph, quand il était devant cette femme de Potiphar qui a essayé de le prendre, hein, parce qu'elle a voulu le violer, bon, alors qu'est-ce qu'il pouvait faire? Comme il avait un manteau, il était assez souple. Il est parti, puis il a laissé le manteau. Puis la femme, elle a tenu que le manteau. Mais avec ce manteau, elle a pu témoigner contre Joseph. Et Joseph a dû aller en prison. Alors la vie chrétienne, comme je vous le montrerai ce soir, ce bonheur qu'on a dans la vie chrétienne, c'est un certain bonheur. C'est pas n'importe quel bonheur. Comprenez-vous? La vie chrétienne véritable, cette vie où l'on renouvelle quotidiennement le choix, c'est une certaine vie qui nous donne un certain bonheur, une certaine paix. Pas n'importe quelle paix. Nous allons développer ça ce soir dans la seconde heure. Mais aujourd'hui, dans ce moment, je voudrais simplement vous montrer combien c'est chaque jour que vous devez dépendre du Seigneur. Et pour le choix d'une compagne, bien vous serez aussi guidé par le Seigneur. Vous direz, Seigneur, montre-moi qui tu veux pour moi. Et puis si vous êtes une jeune fille, fais-moi voir ou que je sois demandé par celui que tu auras désigné pour mon bonheur. L'être qui va me correspondre. Alors, si vous êtes au Seigneur, est-ce que vous accepterez un mariage avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur? Je pose la question. Est-ce que c'est une difficulté? Dire au Seigneur, mais Seigneur, je l'aime. Que ferez-vous? Que dit l'Écriture? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. C'est clair. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Il n'y a pas de chemin. Quand vous êtes dans le chemin resserré, vous épousez quelqu'un qui se trouve dans le chemin resserré. Et vous aurez la bénédiction du Seigneur. Alors je termine pour ce soir en vous rappelant sept passages où il est parlé de ce mot chaque jour. Chaque jour. Vous êtes au Seigneur. Vous avez accepté le Seigneur un jour. Et bien maintenant, puisque vous l'avez accepté un jour, c'est chaque jour que vous devez veiller. Chapitre 8 du Deutéronome, des Proverbes, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Vous êtes maintenant les gardiens et les gardiennes de la parole de Dieu. Et c'est chaque jour que vous avez à veiller et à écouter ce que le Seigneur vous demande. Maintenant, je vous en cite un autre texte. Chapitre 9 de Luc, verset 23. Je crois que je me suis... oui, Luc 29, verset 23, qu'est-ce que vous trouvez ? Puis il dit à tous, si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est chaque jour que vous devez accepter cette croix. Mais quand on porte sa croix, c'est qu'on va où ? À la mort. Alors, notez cela. Chaque jour, vous portez votre croix. Vous avez accepté la croix du Seigneur dans votre vie et vous la portez. Mais où va Jésus avec sa croix ? À la mort. Alors, vous avez été baptisé ? Qu'est-ce que vous avez dit dans votre baptême ? Que vous étiez mort ? Au péché, mort avec le Seigneur. Mais vous avez dit ça quand ? Combien de temps après votre conversion ? 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 heures. Mais aujourd'hui, alors prenez maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, le troisième chaque jour. Comment Paul vivait son baptême ? Comment vous avez et comment moi aussi j'ai à vivre mon baptême. 1 Corinthiens 15, verset 31. Oh, c'est moche, c'est de nouveau second. Hein. Littéralement, c'est je meurs chaque jour. Il dit chaque jour, je suis exposé à la mort, dit second. Mais littéralement, dans le texte qui est mieux traduit, c'est « je meurs chaque jour ». Ou « je suis exposé à la mort ». Mais vous l'avez accepté dans le baptême. Et cette mort, elle doit se manifester tous les jours. Je meurs chaque jour. Je vis le sens profond de mon baptême chaque jour. Alors, si vous êtes mort quand le péché est là, ne bouge pas. C'est là que vous avez la délivrance. La puissance de la mort. Hein. Seigneur, je suis mort. Tenez-vous pour mort. Mais tenez-vous pour mort quand ? Le jour de votre baptême ? Chaque jour de votre vie. Revivez votre baptême. Souvenez-vous du témoignage que vous avez rendu. À ma vie passée, j'ai renoncé. Et maintenant, je vis d'une vie nouvelle. Ça, c'est chaque jour. Puis pour savoir si c'est vrai ce que je vous dis là, parce que je veux que vous ayez un contrôle, faites comme le faisaient les Juifs de Béré. Qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour quand ils avaient entendu l'apôtre Paul ? Ils consultaient les Écritures. Chapitre 17 du livre des Actes, verset 11, un quatrième chaque jour. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour, l'examen des Écritures pour être sûr de votre enseignement ou de l'enseignement qui vous est donné. Et puis, j'arrive à un cinquième chaque jour. Hébreux chapitre 3, verset 13. Quand vous avez examiné si c'est exact ce que vous avez lu dans l'Écriture, et quand vous êtes confirmé que c'est bien la pensée du Seigneur que vous connaissez maintenant, eh bien, au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, au verset 13e, vous avez encore une autre exhortation. Exhortez-vous les uns les autres. Quand ? Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez que c'est un choix quotidien. C'est chaque jour que vous devez vous exhorter. Nous avons besoin de nos frères. Nous avons besoin de voir qui chaque jour ? Nos frères. Nous avons besoin de cultiver la communion fraternelle. Et cela est si vrai que nous pouvons lire ce que faisaient les premiers chrétiens dans le livre des Actes, au chapitre 2 du livre des Actes. Puisqu'ils devaient s'exhorter chaque jour, pour s'exhorter les uns les autres chaque jour, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se fréquenter quand même. Hein? Mais si on s'isole, on ne se voit plus. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour ? Verset 46 du chapitre 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Nous n'avons pas besoin d'un temple, nous. Hein? Et ils rompaient le pain dans leur maison, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Vous voulez des conversions chaque jour ? Bien vivé d'une certaine manière. Et puis, qu'est-ce qui fera les conversions ? Vous ? C'est le Seigneur. Comprenez-vous, vous serez dépréoccupés de vos fruits, mais chaque jour, le Seigneur ajoutera. Et alors, le dernier chaque jour que je voudrais vous laisser, c'est le septième ou le huitième, peu importe. Mais je trouve qu'il y a là une progression, si vous avez pu noter et que vous examinez cela, vous aurez tout le message, au fond, un choix quotidien. Prenez le psaume, psaume 145 par exemple. Verset 2, qu'est-ce qu'il est dit dans psaume 145 ? Qu'est-ce qu'il arrive quand chaque jour on est avec le Seigneur ? On est béni. Il y a la bénédiction. Vous l'avez la bénédiction. Elle est là. Elle est là. Alors, nous lisons au verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Vous pouvez prendre encore le psaume 71. Vous trouvez plusieurs fois cette expression chaque jour. 71, le verset 8 par exemple. Que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Dans le même psaume, le verset 15. Ma bouche publiera ta justice, ton salut. On est sauvé pour quand ? Pour demain ? Pour aujourd'hui, chaque jour. Vous êtes sauvé ? Chaque jour. Chaque jour, c'est ce salut, toujours nouveau. Et chaque jour, vous louez le Seigneur pour son salut. Verset 24. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice. Au fond, chaque jour, la louange. Vous voulez avoir une vie de louange ? C'est une vie de louange quotidienne, chaque jour. Mais pour cela, souvenez-vous que votre choix aussi doit être quotidien. C'est tous les jours. Tous les jours que vous êtes appelés à choisir. Mais voilà, peut-être que ce choix que vous connaissez maintenant, ça ne va pas. Ça me contrarie. Pourquoi ça vous contrarie ? Parce que vous n'êtes pas mort. Un mort, il est plus contrarié.